Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir et bonjour, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez, ravi de vous retrouver en ce mercredi 30 décembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. La chape de missiles de la résistance fait reculer les chasseurs sionistes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, Madame, Monsieur, le premier essai humanoïde du vaccin iranien anti-Covid qui a eu de vastes répercussions dans les médias internationaux. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que la vengeance ultime de son pays pour l'assassinat du général Qassem Soleimani sera le retrait complet des forces américaines de la région. Et puis l'armée israélienne a mené une attaque contre la capitale syrienne Damas, tuant un soldat et en blessant trois autres. C'était les principaux titres que nous allons aussi développer dans ce journal. Merci de votre écoute. Vaste répercussion dans les médias internationaux du premier essai humanoïde du vaccin anti-Covid iranien, je vous le dis en titre, le pas spectaculaire franchi par l'Iran dans la fabrication du vaccin anti-Covid malgré les entraves dressées par les vastes sanctions américaines a eu de vastes répercussions dans divers médias à travers le monde, dont Reuters et Al Jazeera, qui ont diffusé les images des premiers tests humanoïdes depuis l'Iran. La première injection humaine du vaccin iranien de coronavirus, Coviran, est faite en présence du ministre de la Santé et du vice-président pour la science et la technologie. Le vaccin de coronavirus Coviran, fabriqué par des chercheurs iraniens de la société Shafa Pharma, a été testé hier, mardi, sur trois premiers volontaires. Le premier essai humanoïde du vaccin Coviran a été fait sur Tayyebeh Mohber, la fille de Mohammad Mohber, chef du comité exécutif de l'ordre de l'imam Khomeini, la structure qui a soutenu le projet de la production du vaccin iranien du coronavirus. La première injection du vaccin iranien a été réussie complètement, sans avoir aucun symptôme de choc ni de fièvre. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que la vengeance ultime de son pays pour l'assassinat du général Qassem Soleimani sera le retrait complet des forces américaines de la région. Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran se réserve le droit de se venger de meurtres par les États-Unis du haut général iranien. Les États-Unis avaient liquidé Qassem Soleimani en martyr parce qu'il combattait vraiment le terrorisme, insiste Hassan Rouhani avant de préciser que la région doit sa sécurité et sa stabilité au général assassiné en martyr. Le président iranien a également déclaré que les États-Unis et Israël sont les seuls bénéficiaires de l'insécurité dans la région. M. Rouhani a fait ses commentaires lors d'une réunion du cabinet à l'approche du premier anniversaire de la mort en martyr du très haut général Soleimani. Le commandant antiterroriste, dont le rôle pour neutraliser Daesh dans la région était crucial, a été tué en martyr dans une attaque ciblée de drones américains près de Bagdad, la capitale irakienne, le 3 janvier 2020. nanotechnologie, le président Rouhani toujours se félicite des réalisations impressionnantes de l'Iran, s'exprimant lors de la réunion du Conseil suprême de la révolution culturelle. Le président Rouhani a déclaré que l'Iran avait fait des progrès fiers à la fois dans la production de la science des nanotechnologies et dans sa mise en œuvre dans l'industrie et des produits importants. Évoquant les grandes réalisations du pays en matière de nanotechnologie, le président iranien a souligné que les sanctions ont été gênantes, sapant non seulement les importations, mais aussi les exportations, en particulier dans le domaine de nouvelles technologies. Il a souligné que le travail sur la nanotechnologie devrait être élargi, ajoutant que cette technologie est très importante dans le secteur de la santé, en particulier en cette période de crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, où on a besoin de produire, je cite, de masques et de ventilateurs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réitéré l'avertissement de Téhéran sur les conséquences de tout aventurisme des États-Unis dans la région du Golfe Persique. Mohammad Javad Zarif a fait cet avertissement lors d'une conversation téléphonique avec son homologue qatari, le cheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Sani. Zarif a également réitéré la nécessité d'une coopération régionale pour maintenir la stabilité et la paix dans le Golfe Persique tout en évitant les tensions et l'ingérence étrangère. Les tensions sont vives dans le Golfe Persique depuis que les États-Unis ont déployé un sous-marin nucléaire dans la région à la suite d'une attaque à la roquette contre son ambassade à Bagdad. Washington a imputé l'attaque au groupe soutenu par l'Iran. Mais Téhéran a rejeté les allégations sans fondement et a qualifié l'attaque de suspecte. Le ministre iranien de l'énergie en Irak, afin de discuter de la manière de développer des liens bilatéraux en pleine pression américaine visant le voisin de l'Iran. Le ministère iranien de l'énergie, Reza Ardakhanian, se trouve en Irak à la tête d'une délégation pour discuter des capacités et des moyens de développer la coopération économique et commerciale entre Téhéran et Bagdad. Lors de sa visite officielle, le ministre iranien a discuté avec des responsables irakiens des préparatifs de la réunion de la commission mixte de coopération économique et commerciale entre les deux pays, qui sera accueillie par l'Iran ce mois-ci, indique le communiqué. Samedi, le ministre des coopératives du travail et de la protection sociale, Mohammad Shariat Madori, a déclaré qu'une feuille de route quinquennale pour une coopération conjointe entre les deux voisins avait été préparée, espérant que les questions d'intérêt commun entre les deux pays seraient finalisées lors de la réunion. Le gaz naturel d'Iran produit jusque 45% de l'électricité irakienne. L'Iran transmet directement 1200 mégawatts supplémentaires. Les États-Unis ont dû accorder à plusieurs reprises des dérogations de sanctions à l'Irak pour continuer les importations en provenance de l'Iran, tout en essayant de faire appel à ses entreprises et alliés, tels que l'Arabie saoudite, pour remplacer l'Iran comme source d'énergie. Le mois en cours a été marqué par une série de mesures de va-et-vient, alors que les deux voisins se préparent également à marquer le premier anniversaire de l'assassinat par les États-Unis du légendaire commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, et de son compagnon irakien, Abu Mahdi al-Mohandes. L'armée israélienne a mené une attaque contre la capitale syrienne Damas, tuant, je vous le disais en titre, un soldat et en blessant trois autres. Selon une source militaire syrienne, la frappe aérienne visait une unité de défense aérienne dans la région de Nabi Abel, située à l'ouest de la campagne de Damas. La source a noté que certains des missiles avaient été interceptés par les systèmes de défense aérienne du pays. L'incident survient quelques jours après que les forces de défense aérienne syriennes ont intercepté une frappe aérienne israélienne sur la province occidentale de Hama. La récente recrudescence du nombre d'attaques israéliennes est considérée comme une réaction au succès des forces syriennes dans la lutte contre les groupes terroristes soutenus par l'étranger, cherchant à renverser le gouvernement du président Bachar Assad. Les États-Unis ont approuvé la vente de 290 millions de dollars de bombes à l'Arabie saoudite malgré les critiques concernant les antécédents de Riyad en matière de droits de l'homme et sa guerre infanticide au Yémen. Les États-Unis vendront au Royaume-Uni 3 000 bombes de petit diamètre et des équipements connexes.
Ils ont précédemment approuvé la vente de 478 millions de dollars de bombes intelligentes Air Solariad. L'administration du président finissant Trump a également conclu des accords de vente d'armes avec plusieurs autres États arabes, dont les Émirats arabes unis. Cette décision intervient malgré l'opposition du Congrès et du public à un tel soutien militaire. Les critiques ont cité des antécédents des monarchies arabes en matière des droits humains. Quant à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, les défenseurs des droits de l'homme ont cité d'énormes décès de civils causés par la guerre de la coalition d'agression au Yémen menée par ces deux pays. Les législateurs américains ont désormais 30 jours pour bloquer la vente. Sinon, le président élu Joe Biden décidera du sort des accords. Enfin, la famille d'une éminente militante saoudienne des droits humains a déclaré qu'elle ferait appel de sa peine de prison au milieu d'un cœur d'appels internationaux pour sa libération. La famille de Loujane Al-Hasloul a qualifié son procès de simulacre et de politisé. Sa famille a cependant dit qu'ils avaient peu d'espoir dans le système judiciaire saoudien. Al-Hasloul, une défenseuse des droits des femmes, a été arrêtée en mai 2018. Elle a été condamnée lundi à une peine de prison de près de 6 ans pour des accusations proférées par Riyad liées au terrorisme. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a qualifié la condamnation d'Al-Hasloul de profondément turbulente, exhortant Riyad à libérer la militante prochainement. L'Allemagne et la France ont fait des demandes similaires. L'administration du président élu américain Joe Biden a qualifié la condamnation d'Al-Hasloul d'injuste et de choquante. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de votre attention. Restez avec nous dans quelques instants, notre commentaire politique. La chape de missiles de la résistance fait reculer les chasseurs sionistes. Spectaculaire reculade, pour la première fois depuis le début de la campagne dite « guerre dans la guerre sioniste » que l'ex-général réserviste israélien Itzhak Brick dénonçait encore il y a 2 jours dans un tout récent article comme étant « un piège tendu par l'Iran et ses alliés à un Israël frappé de cécité stratégique et qui a jusqu'ici perdu force, argent, énergie, tout comme capacité de restructuration de son front intérieur, sans gagner quoi que ce soit en retour, puisqu'au stade où en sont les choses, ni le Hezbollah, ni les Hashd, encore moins la Syrie, eux-mêmes, fabricants d'armes, n'ont plus vraiment besoin d'armes acheminées, l'armée de l'air sioniste s'est sentie bien en cage. Et comment ? Certes, la frappe lancée dans la nuit du 29 à 30 décembre contre Zabadani, au lieu du Hezbollah dans la banlieue du nord-ouest de Damas, lieu que les câbles, quelque peu datés du renseignement militaire israélien, croient toujours être un couloir d'acheminement d'armes iraniennes vers le sud du Liban, a été violente et les explosions ont même été entendues dans la Baka libanaise. Sana affirme même qu'un soldat a péri et que 3 autres ont été blessés. Mais en guerre, c'est ce qu'il y a de plus normal. Ce qu'il est moins au contraire, et ceci les médias mainstream ne le diront jamais, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, les F-16 israéliens ont été forcés de lancer la coûteuse vague de missiles de Delilah, non pas depuis l'espace aérien du sud du Liban, ni même depuis le ciel du Golan occupé, mais bel et bien depuis le ciel du nord de la Galilée, en Israël. Le piège, comme le dirait le général Brick, est donc bien refermé, l'entité sioniste étant cernée au sol comme au ciel. Il y a 2 jours, en effet, une information reprise par Israël Haïmoun évoquait une importante décision de Tel Aviv, comme quoi toutes les armes des habitants du Golan seraient sur le point d'être collectées et stockées. Les observateurs y ont vu d'abord l'expression d'une crainte, celle qui pousse Tel Aviv à voir partout au Golan occupé des commandos du Hezbollah déguisés en civils et dotés de bombes Kalimagor, prêtes à être déclenchées au passage des patrouilles militaires sionistes. D'autres analystes sont allés plus loin, toutefois en jugeant que la décision renvoyait droit à une démilitarisation de la zone, voire à un retrait en catimini des troupes sionistes du Golan occupé. Et c'est vrai qu'au Golan occupé, Israël n'est plus le maître du jeu. Reste à savoir si le ciel de la Galilée, d'où les raids du mardi soir ont été lancés, restera pour longtemps sûr et il suivra le même trajet, insécurisé, que le ciel du Golan. Plus d'un observateur opte pour la seconde hypothèse, les drones du Hezbollah ayant déjà pénétré en plein exercice militaire d'envergure l'étal Arao, la Galilée Nord, réussissant même d'y faire une longue promenade jusqu'aux fermes des Shabbats, collectant des informations fort précieuses sur l'emplacement des centres de commandement, des bases militaires, des sites vitaux du nord d'Israël. Et dire que ce lundi toujours, le porte-parole de l'armée israélienne tentait encore de tromper les colons de la Galilée qui devront s'apprêter à une offensive d'envergure, Hezbollah, armée syrienne, armée de libération du Golan, imminente.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des récents propos du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. Il a parlé bien sûr de la vengeance des deux martyrs, à savoir Soleimani al-Mohandes. Il avait dit que c'était une question de temps. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement sur les propos de Nasrallah sur la normalisation des relations entre certains pays arabes, dont les Émirats arabes unis, le Bahreïn ou bien le Maroc, avec Israël. Alors, il a parlé de manière très directe et il a dit qu'ils ont montré, ces pays-là, qu'ils avaient une attitude hypocrite car ils soutenaient seulement verbalement la cause palestinienne et dans la pratique, zéro. Nous allons voir plus clair avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le secrétaire général du Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré qu'il fallait faire preuve de vigilance et de précaution d'ici la fin du mandat du président américain sortant Donald Trump. Le comportement d'une personnalité comme Trump est imprévisible, a-t-il dit lors d'une interview accordée ce dimanche soir à la chaîne de télévision panarabe Al Mayadin. Il a toutefois souligné que tous les propos sur des intentions belliqueuses dans la région avant le départ de Trump de la Maison-Blanche ne sont qu'hypothétiques. Les menaces d'Israël qui fusent de toutes parts ne sont que du tapage médiatique. Tout ce bruit ne sera pas suivi d'actes réels, a estimé Nasrallah, précisant que la visite de Mark Milley en Israël s'inscrit dans le cadre de l'avènement de la nouvelle administration américaine et de son approche du conflit israélo-palestinien. Milley serait venu à la demande de Biden pour dissiper les inquiétudes d'Israël, a-t-il dit, soulignant que tous les propos sur des possibles assassinats sont basés sur des analyses logiques et non pas sur des informations concrètes. Le secrétaire général du Hezbollah a commenté les informations faisant état d'une descente israélienne dans la région de Jayeh, à l'entrée sud du Liban. Tout ce qui a été dit à ce propos est erroné d'après nos connaissances. Pour nous, les Israéliens sont toujours dans un état de forte vigilance et n'arrivent pas à tenir sur pied. Nasrallah a révélé que la liquidation des commandants du Hezbollah est un plan mené conjointement par l'axe américano-israélo-arabe. Les informations à notre disposition confirment que l'Arabie saoudite incite à l'administration américaine depuis longtemps, au moins depuis le déclenchement de la guerre contre le Yémen, homme assassiné. Ces dernières années, la direction saoudienne a adopté une politique rancunière irraisonnable, a-t-il indiqué.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités, en commençant par Madame Ghada Oubala, géopoliticienne depuis Beyrouth. Bonjour. Merci d'accorder votre temps à cette émission. Un grand bonjour à M. Arnaud Develay, juriste international depuis Damas. M. Develay, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission Le Débat, diffusé depuis la capitale iranienne Téhéran. Alors, nous parlons bien sûr des propos du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Nasrallah. Alors, concentrons-nous d'abord sur la normalisation des relations avec Israël, certains pays arabes, dont le Bahreïn, les Émirats arabes unis, et bien sûr le Maroc tout récemment, et bien sûr tout récemment, Erdogan, le président turc, a déclaré sa disponibilité d'avoir des relations étroites avec Israël. Et cela montre l'hypocrisie et dévoile donc la vraie image de ces pays-là à l'égard du soutien de la cause palestinienne qui a été jusqu'à présent verbalement. Monsieur Develay, qu'en pensez-vous?
Pour commencer, je dirais qu'à chaque fois que le secrétaire général du Hezbollah s'exprime, c'est toujours très clair, c'est très factuel, et quand il s'exprime de manière rare, mais toujours extrêmement ciblé, et ça fait en fait fi de toutes les jacasseries médiatiques qu'on peut entendre ici et là, chaque jour plus ou moins, concernant tel ou tel événement à venir ou telle menace. Donc la première chose, effectivement, vous l'avez dit, c'est que, ainsi qu'il l'a souligné lui-même, ces accords, entre guillemets, de normalisation ne sont que, quelque part, des faits accomplis, parce qu'on sait que depuis des années déjà, ces États entretiennent à divers degrés, certes, des relations avec l'entité sioniste, que ce soit commercial, que ce soit par rapport aux ventes d'armes, que ce soit par rapport à l'échange de renseignements, que ce soit par rapport à la coordination de certaines politiques menées dans la région. Donc, ce n'est pas très surprenant, et en cela, les déclarations du secrétaire général restent extrêmement mesurées, et il n'en fait pas état plus que cela. Il se contente juste de souligner que ce que tout le monde savait depuis des années déjà.
Tout à fait. Madame Oubala, Monsieur Develay n'est pas surpris de voir que ses relations avec ces pays arabes, avec Israël, a été rétablie. Qu'en pensez-vous?
Surprise moi-même, non. Disons, si je recadrer votre question dans le discours du secrétaire général de Hezbollah, si vous permettez juste une petite intro concernant deux mots sur justement cet entretien. Dans la forme, comme l'a bien souligné votre invité, et comme on l'a toujours habitué, c'est un entretien qui a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a duré à peu près 3 heures, avec 3 pauses. Et des pauses publicitaires, si on peut s'exprimer ainsi. Et la première question que le directeur de la chaîne publicitaire libanaise m'a dit à Bourbier, à Saint-Benjeto, était une question qui était liée justement à les tentatives ou les rumeurs les nouvelles qui se répondaient concernant les tentatives d'assassinat sur sa personne, sur la personne de secrétaire général du Hezbollah. Et immédiatement, il a bien cadré sa réponse, le secrétaire général du Hezbollah, en disant qu'en fait, depuis 5 ans, un trio, c'est la première fois qu'il utilise ce terme, un trio, c'est-à-dire les États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'entité sioniste, prépare de l'assassiner. À partir de ce trio, il entrait dans la question palestinienne et justement la question de la normalisation. Concernant la question palestinienne qui est la cause palestinienne, le rôle des alliés, c'est-à-dire il a bien souligné le rôle personnel du président Assad, il a bien souligné le rôle de l'Iran, Également, au passage, il a tenu à marquer l'indépendance qui caractérise la relation féministe entre les alliés, c'est-à-dire entre la Hezbollah et la Syrie, concernant la position envers le Hamas. Or, justement, une problématique qu'a posée cette agence, c'est concernant la position du Hamas vis-à-vis des termes de l'Union. Et là, pour répondre à votre question, c'est que quand la Turquie, Erdogan, à travers Erdogan, affirme être, avoir une disponibilité justement pour normaliser les relations avec les terroristes, que ce soit la Turquie, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, non pas l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Bahreïn, le Maroc, qui sont les pays qui ont normalisé, bon, cette relation existait et également elle a signé depuis des années. La seule différence, c'est qu'elle a été affichée publiquement et officielle. Bon, premièrement, deuxièmement, le secrétariat de Hezbollah République, son origine, qui en fait qui est en train de réaliser les relations, il faut voir quelle sera la réaction des peuples. Et troisièmement, la position du Hamas est une position assez sensible parce que la problématique qu'a posée cette Hassan Nasrallah, c'est que le Hamas est en fait, au niveau doctrinal, il répond aux frères musulmans. Donc, la question qui se pose au Hamas doit redéfinir ses priorités, et à savoir, est-ce que le Hamas doit plus évoluer en tant que mouvement de résistance, de libération palestinienne contre l'occupation israélienne, ou bien la priorité, c'est de rester liée à le mouvement des frères musulmans, un mouvement régional et international.
Tout à avec fait, ce que oui.
La porte comme oui. Doctrine. Voilà.
D'accord. Monsieur Develay, votre réaction, je vous prie, face à ce trio sioniste, américano, donc arabe, et aussi les propos de Mme Hubala quand elle parle donc de la position du Hezbollah quant à la résistance à la cause palestinienne, ou bien autre chose. Qu'en pensez-vous?
Bah, je dirais que le secrétaire général, avant tout, a une position de fédérateur. Comme l'a souligné votre invité, effectivement, il y a eu des incidences au niveau de la coordination de la résistance au sens large, surtout durant la séquence syrienne. Les 5-6 premières années, on a assisté effectivement à une tentative de scission au sein de la direction du Hamas. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui avait été forcément implémenté, mise en œuvre de concert, mais il y a une faction au sein du Hamas qui s'est laissée berner par ce projet expansionniste géré par cette mouvance dite des frères musulmans, et ça a mené à des scissions au sein même de la résistance et a eu pour résultat de mettre, si je puis dire, la cause palestinienne, on va dire, à l'arrière-plan. Grâce aux efforts du Hezbollah, pourparlers ont eu lieu, des tentatives de réconciliation ont été menées et il est à espérer qu'à l'avenir, la coordination sera efficace et sera absolument parfaite. Maintenant, pour ce qui est effectivement de la situation dans son ensemble, il y a quelque chose de très important, c'est effectivement toutes ces rumeurs comme quoi une attaque serait imminente, comme quoi des tentatives sont faites pour essayer de provoquer un conflit dans la région. Il est important de souligner que le secrétaire général a mis un terme à toutes ces rumeurs. Il n'y a absolument pas de conflit imminent, si ce n'est, comme il l'a souligné, eu égard à la personnalité de Trump, qui est, je cite, un fou furieux. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est tout à fait vrai. Mais voilà, l'état-major américain n'est pas fou. Ils savent très bien, ils connaissent très bien les capacités de la résistance dans son ensemble. Et je crois que il faut surtout rester vigilant. Il l'a bien répété, ne pas tomber dans les provocations, dans les pièges.
Monsieur Develay,
Oui.
Excusez-moi de vous interrompre. Justement, les Israéliens ont tout fait pour semer la discorde au sein même du Hamas, le Hezbollah libanais. Mais le Seyyed Nasrallah a dit que jamais l'axe de la résistance n'a été si uni. Je cite donc qu'il se porte parfaitement bien.
Oui, tout à fait. Mais c'est à mettre à son crédit. Seyyed Nasrallah a ce charisme, quand sa parole est entendue, elle résonne, et elle résonne dans tous les compartiments et dans toutes les dimensions de la résistance. Et la cause palestinienne est un combat qui dure depuis des décennies. Il y aura forcément des difficultés, mais il faut savoir négocier ces difficultés, prendre la voie haute, prendre, si je puis dire, de l'altitude, et c'est ça, être un leader. C'est être capable de prendre une vision stratégique des choses et non pas tomber dans les pièges et dans les dissensions que l'ennemi peut créer de manière ponctuelle. Et en cela, son discours est important à souligner sur ce point précis. Oui, des erreurs ont été faites, mais des excuses ont été présentées, des remises en question ont eu lieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut maintenant regarder de l'avant. Et effectivement, vous le soulignez très bien, la résistance n'a jamais été aussi forte. Avec
tout à fait.
Cette situation, littéralement, où l'État sioniste est dans un état de panique généralisée. On l'entend tous les jours. Ces experts militaires le disent. Et ce n'est pas forcément des tentatives de désinformation. Il y a vraiment un fond d'inquiétude extrême, sans précédent. Et ils savent très bien que s'il doit y avoir un prochain conflit, ce sera certainement le dernier conflit.
Oui.
Pas à douter.
Tout à fait. Madame Oubala, depuis Beyrouth, alors, à maintes reprises, le secrétaire général du Hezbollah a parlé de la vigilance, d'une part face à la réaction américaine à la fin du mandat de Trump. Mais quand il parle de la vengeance des deux martyrs, à savoir Soleimani et Al-Mohandes, mais d'une part on parle de la vigilance et d'autre part on parle d'une vengeance, et il a dit que c'était une question de temps.
Comme dirait le proverbe, la vengeance est quelqu'un qui se venge croit. Donc la vengeance, de toute façon, au lendemain de l'assassinat du général Soleimani, il a affirmé qu'en fait la vengeance ne sera complexe que ça sur le plan tous les Américains, tous les forces américaines sur lequel le compte de qui. Donc déjà, il a bien défini le titre de cette vengeance, premièrement. Deuxièmement, vigilance, oui, parce que selon sa lecture, la lecture du secrétaire général de Hezbollah, c'est une lecture que beaucoup d'observateurs seraient également sont d'accord là-dessus, c'est que Trump est un homme qui est en cas, dans les cas normaux, est un homme qui est assez intuitif, qui suit ses instructions, parce que tout simplement c'est un autodidacte qui croit uniquement en ses capacités, c'est lui qui a construit sa propre école. Une école basée sur l'expérience, sa propre expérience, pour construire ses fortunes. Donc il a essayé en fait de copier cette expérience au niveau politique, mais bon, il s'est trompé en croyant que l'administration américaine, en tant que telle au sein des États-Unis, n'est pas une administration qu'on peut gérer comme une compagnie privée. Or, actuellement, Trump a perdu les élections. Jusqu'à maintenant, il est dans pas total déni, mais presque un déni au niveau des résultats des élections. Et il y a environ un mois, alors que les résultats étaient pratiquement définitifs, il a déclaré sur un tweet que la bataille n'est pas terminée. Bon, la bataille n'est pas terminée, il reste à savoir ce qu'il va faire encore. C'est une grande question. Donc cette vigilance, et en fait, il me dit en fait que c'est un homme imprévisible, et quand il a perdu, c'est quelqu'un qui est en colère, et donc il risque justement de réagir de manière assez dangereuse sans calculer justement les conséquences que cela peut avoir de son acte. Provoquer une guerre ou une agression. Donc oui, la vigilance que Saïd Hassan Nasrallah s'impose c'est parce qu'on a devant soi un homme qui est invisible et qui est invisible. Et en même temps, la vengeance, c'est parce que tout simplement, déjà, il l'a dit plusieurs fois, d'ailleurs, le secrétaire général de Hezbollah, le fait de ne pas déterminer ou définir quand est-ce qu'il compte une possession contre n'importe quelle attaque ou assassinat, et comme ça, une forme de vengeance. Donc, c'est déjà, il est en train d'imposer une guerre psychologique à l'ennemi. C'est déjà en soi une vengeance. Donc, il reste le côté militaire purement, si je veux dire, plus fantastique. C'est-à-dire viser, cibler quelqu'un du même calibre que Soleimani.
Absolument. Oui, tout à fait. Et, monsieur De Vollet, vous avez dit tout à l'heure que Cheikh Nasrallah s'exprime rarement, mais quand il s'exprime, il dit des choses très complètes. Et justement, on a l'impression que dans ses propos, on a vu une démonstration de force quand il a parlé des missiles, de l'armée, la force du Hezbollah libanais. Et, qu'en pensez-vous à cette position?
Ben oui, dans ce sens où il connaît parfaitement tous les aspects tactiques du théâtre d'opération. Il est constamment informé par les autres composants de la résistance quant à les imbrications et les protocoles sont en place. Quel que soit ce qu'on puisse en dire, et je souligne en cela ce que disait votre invité, c'est que le temps des représailles, de toute façon, et ça a toujours été un principe fondamental de la résistance, sera choisi par la résistance le moment voulu. Ça fait partie de la guerre psychologique qui est une composante intégrale du combat, si je puis dire, qui est mené. Et dans ce sens-là, il se contente simplement il n'infirme pas, il ne confirme pas, il avance des éléments concrets, mais sans dévoiler, bien sûr, quoi que ce soit dans les détails, puisque de toute façon, les services de renseignement antisionistes savent très bien tout ça. Donc c'est un petit peu un jeu à distance à quoi nous assistons. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'en rajouter, si je puis dire. Que ce soit 300 000, 400 000, que ce soit des drones, que ce soit des sous-marins, ça n'a aucune importance tout cela. L'idée, c'est de toute façon, fondamentalement, la donne a changé. Le rapport de force est inversé, la résistance est plus forte que jamais, plus coordonnée que jamais, les cartes sont redistribuées complètement, suite à cette séquence syrienne qui a complètement échoué, c'est exactement le résultat inverse qui en fait a maintenant été établi. Et malgré toutes les recommandations par la direction israélienne portant sur envoyer des messages à Joe Biden par l'entremise du chef d'état-major de CENTCOM, le fait est que cela révèle en fait une panique. Et
Monsieur De Vollet, vous parlez des recommandations de la part d'Israël. Justement, Israël essaie de donner une image dangereuse de la République islamique d'Iran dans la région afin de pousser certains pays arabes de normaliser leurs relations avec Israël, ce qui a été réussi, n'est-ce pas?
Oui, enfin oui et non. La rue de ces pays, si je puis dire, n'est pas leur. Elle sait très bien, n'est pas dupe, elle sait très bien de quoi il en ressort. Le peuple, de manière générale, a toujours cette espèce d'instinct qui lui permet, même sans avoir forcément la sophistication nécessaire pour expliquer ce qu'elle ressent, sait très bien que c'est un aveu de faiblesse de la part de ces directions respectives. Et ils le font pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leurs intérêts propres, parce que de toute façon, ils savent très bien que c'est une fuite en avant pour eux. Et ils le font quelque part parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ils entretiennent des politiques stratégiques de court terme pour des intérêts très ciblés. Mais s'il venait à y avoir une conflagration, si je puis dire, ils savent très bien quelque part qu'ils seraient les premiers ciblés parce que ils ont fait leur lit, ils doivent dormir dans leur lit, si je puis dire. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Oui. Madame Houbala, votre réaction, je vous prie.
À propos, notre invité a parlé de beaucoup de choses et je suis tout à fait d'accord dans l'ensemble, mais précisez vos questions, s'il vous plaît.
Oui, donc ce sont donc Israël qui essaye de donc donner une image dangereuse de l'Iran dans la région. Est-ce que ça a été réussi ou ça a été donc bien conseillé par le Hezbollah libanais d'éviter cela?
Écoutez, également, je retourne toujours au discours du secrétaire général du Hezbollah quand il a dit justement que plus d'entités sionistes menacent et expriment lancent des rumeurs sur l'Iran, sur le Congo, etc., plus cela signifie, selon les termes de Hezbollah, qu'elle est en fait, qu'elle se sent menacée dans son existence, sur tous les domaines. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut en fait toujours, également, je me réfère au secrétaire, toujours il faut, selon lui, se reporter à la vie, justement, des peuples. Fort heureusement, la révolution numérique à travers Internet et les réseaux sociaux, certes, il y a l'Arabie Saoudite et tous les médias arabes qui sont en train de travailler sur les médias pour en fait tenter de donner à cette information une forme de légitimité au niveau des réseaux sociaux, mais en même temps, on voit la réaction des jeunes dans les réseaux sociaux, qui sont une réaction qui condamne cette normalisation, qui sont cons et qui voient qu'ils sont. Clairement, ils n'ont pas été touchés par justement cette guerre médiatique et cet acharnement de la part de l'antisémitisme, en fait, de déformer l'image de la musicaliste de l'appareil ici. Et cela, je peux le dire parce que je le sens ici au niveau des réseaux sociaux, même au niveau dans le monde arabe, là où que ce soit en Syrie ou en Tunisie ou au Maroc. Souvenez-vous, en Maroc, il y a deux semaines, quand il y a eu justement la première déclaration de la décision de normaliser, les gens sont descendus à la rue. Donc,
tout à fait, voilà. Bien. Ghada Hubala, géopoliticienne depuis Beyrouth. Merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à M. Arnaud Develay, juriste international. Oui, merci à vous. Un grand merci à M. Arnaud Develay, juriste international depuis Damas, d'avoir participé à cette émission. Ici, on prend fin à l'émission Le Débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. sanctions américaines, l'Iran n'est pas à genoux. En économie, la résilience et la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc. Aux grandes dames de l'administration finissante de Donald Trump qui n'a cessé depuis 2017 et en particulier depuis mai 2018, date de sa sortie de l'accord nucléaire, d'accroître la pression sur l'Iran afin de l'amener à négocier cet accord, force est de constater en ce mois de décembre 2020 que l'économie iranienne est toujours debout. En fait, à la différence des pétromonarchies arabes du Golfe Persique, dont l'économie repose totalement sur les revenus pétroliers, l'Iran a su se diversifier pour éviter une dépendance totale aux hydrocarbures. Sortis de force du système mondialisé, les Iraniens ont su créer un modèle économique alternatif en renationalisant leur production et en régionalisant leurs échanges. En sanctionnant les importations iraniennes, l'administration Trump a ironiquement relancé la production nationale et contribué à créer de nouveaux emplois. La dernière fois, nous avons dit que le déclenchement d'une vague d'hyperinflation était le but recherché par Washington à travers les sanctions contre l'Iran. Mais que cela a été un cuisant échec pour les États-Unis, puisque le rial ne s'est déprécié en 2 ans que de 20% face au dollar. Et comme la Banque mondiale l'a noté, le taux d'inflation au cours de l'année 2019 a été de 41%. L'Iran n'est donc pas devenu le Venezuela du Moyen-Orient, contrairement à ce qu'espérait à haute voix l'opposition iranienne soutenue par les États-Unis. Dans cette deuxième partie de l'article rédigé par Xavier Dupré, nous évoquons les conséquences économiques du retour des États-Unis dans le cadre des accords sur le nucléaire iranien. L'objectif de politique monétaire iranien est clairement renforcé par la perspective de voir les États-Unis, suite à l'élection de Joe Biden, revenir aux accords sur le nucléaire iranien et par là même abandonner la politique de sanctions de l'administration Trump. En 2018, avec un baril dont le cours moyen était de 69,52 dollars, prix OPEP, l'économie iranienne bénéficiait, comme nous l'avons vu, d'un apport en devises de 40 milliards de dollars. Avec un baril aux alentours de 50 dollars en moyenne annuelle, l'Iran pourra compter sur une rentrée en devises de près de 20,5 milliards de dollars par mois, 30 milliards de dollars en base annuelle. Il ne sera alors plus question d'anticiper une hyperinflation pour le pays. Ce péril grave sera écarté. Pour mémoire, le baril de Brent, la référence européenne en ce qui concerne l'or noir, a le 10 décembre 2020 franchi le seuil des 50 dollars, un montant jamais atteint depuis le 6 mars. À titre d'information complémentaire, on mentionnera que les prévisions de l'OPEP, sous la pression de l'Arabie saoudite, concernant le prix du baril, n'intègrent pas un retour de la production journalière de l'Iran à raison de 2 millions de barils par jour, soit la production journalière de 2018. Il va naturellement de soi que si les stratégies de vaccination sont couronnées de succès, la consommation mondiale de pétrole repartira à la hausse de telle sorte que la production iranienne ne fera pas baisser le prix unitaire du baril. De toute manière, il faut être très clair sur un point. Au cours des 2 dernières années, les Saoudiens ont aidé l'administration Trump à exercer un maximum de pression sur Téhéran sans manifester aucune solidarité pour un autre membre de l'OPEP. La responsabilité d'une éventuelle dégradation des cours du brut après le retour de l'Iran sur les marchés ne sera donc pas le fait de Téhéran, mais de Riyad. Le prix du baril ne peut constituer à lui seul l'indicateur de référence permettant de juger les effets positifs sur l'économie iranienne du revirement de Washington. En effet, la sortie du régime de sanctions décidé unilatéralement par l'administration Trump en 2018 remettra à l'ordre du jour une série de projets d'investissement qui permettront au pays d'augmenter ses exportations et ou de réduire ses importations. Le retour au cadre de 2015 permettra à Total d'intensifier l'exploitation du projet gazier offshore South Pars situé à proximité des eaux du Qatar. Les exportations de gaz de Téhéran sont particulièrement faibles alors que le pays détient les plus importantes réserves de gaz naturel au monde, juste derrière la Russie. Les réserves de gaz de l'Iran s'élèvent en effet à 31,9 milliards de mètres. De même, le groupe automobile français PSA, présent depuis longtemps en Iran, pourra, à la faveur du retour à l'esprit des accords de 2015, investir davantage en Iran. Il en résultera une amélioration de la balance commerciale du pays qui a consacré près de 10% de ses importations, 5 milliards de dollars en 2018, au seul secteur automobile. Ces données permettent de saisir l'importance économique pour l'Iran des accords de 2015. Pour autant, on n'en déduira pas que l'Iran reste strictement cantonné à une position demandeuse. Le pays possède un certain nombre de cartes dans son jeu qui lui ont permis, dans le passé, de manifester une très grande résistance face aux différentes vagues de sanctions américaines depuis la révolution islamique de 1979. La prochaine fois, nous vous évoquerons les facteurs de cette résistance iranienne.
Thank you.